Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sophia Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Sainte-Rose-même.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bain-Saviel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que les. On puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Mais aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher vers un but.
À vous qui êtes à l'écoute de cette nouvelle émission de la Commission diocésaine Justice et paix, bonjour. Dominique Mucherin avec vous. Nous allons écouter la partie 2 de notre émission sur la conférence débat qui a eu lieu en janvier 2026 à la salle paroissiale de Prise d'eau avec le thème « Autonomie économique de la Guadeloupe ». Et comme intervenants, nous avions messieurs Maurice Billionnière et Alain Plaisir et comme modérateur, monsieur Robert Valérius. Beaucoup d'entre vous ont certainement écouté la première partie. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Nous allons continuer, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire juste un petit rappel, quelques extraits, et puis nous allons pouvoir entamer cette deuxième partie d'émission.
Merci d'être venu en ce temps de carnaval pour participer à cette réunion qui a pour thème aujourd'hui l'autonomie économique. Je vais présenter celui qui est à ma gauche, monsieur Billionnaire, qui est universitaire, qui a fait toutes ses études en Guadeloupe, et je suis ravi de le dire, je vous le dis vraiment. Et je le dis vraiment avec beaucoup d'émotion. J'aurais aimé que beaucoup de jeunes Guadeloupéens reviennent dans ce pays pour porter leur richesse, parce qu'ils sont riches de beaucoup de choses qu'ils ont appris à l'extérieur. Mais lui, il est resté en Guadeloupe, il a fait son cursus en Guadeloupe, et il est universitaire aujourd'hui, et il transmet à de jeunes Guadeloupéens. Et c'est ça qui est le plus important. Et à ma droite, Alain Plaisir, que nous connaissons tous, qui est un ancien cadre haut fonctionnaire de la douane, qui a beaucoup œuvré pour réfléchir sur la Guadeloupe, qui est un ancien syndicaliste, qui a produit aussi des ouvrages et qui porte la volonté d'une Guadeloupe responsable. Nous avons choisi ces deux personnalités pour nous éclairer, pour nous porter la lumière, mais aussi pour échanger. Et l'important, c'est ça, en fait, que nous échangions tous sur notre pays, ce pays que nous aimons, dans lequel nous vivons, que nous souhaitons qu'il aille de l'avant, parce que, finalement, c'est là nous y est, c'est là nous qu'à vivre, et c'est là nous fait avancer aussi, pour Timouna nous qu'à Vintita. Je passe la parole à Maurice Billionnaire.
Je pense que c'est un thème qui nous intéresse, en fait, tout un chacun en tant que Guadeloupéen. Déjà, selon moi, lorsqu'on parle d'autonomie économique, il faudrait déjà savoir où on se situe dans ce terme, parce qu'il peut être assez vaste. Autonomie, selon moi, ce serait la capacité d'un territoire à pouvoir penser son développement économique, sa croissance, en ayant une certaine indépendance vis-à-vis des ressources, vis-à-vis de l'extérieur. On sait actuellement que la Guadeloupe, quand même, fait face à de nombreux défis.
Et maintenant, monsieur Alain Plaisir, extrait.
Alors, je vais vous donner quelques chiffres, quand même, pour montrer qu'on est très loin de l'autonomie économique. Surtout si on prend le domaine agricole, puisqu'on parle souvent ici de souveraineté alimentaire. On est très, très loin de la souveraineté alimentaire. On est même à reculons. C'est-à-dire, au lieu d'aller dans le sens de la souveraineté, on va dans le sens de la disparition de la production agricole. Je vous donne quelques chiffres. Si on prend les productions traditionnelles, le sucre, le record, c'est en 1965, on a fait 187 000 tonnes de sucre. L'an dernier, on avait péniblement 45 000 tonnes. Depuis quelques années, on est en dessous de 50 000 tonnes. Ça veut dire qu'il y a un déclin irrésistible de la production de sucre. Et on risque d'être dans quelques années comme la Martinique, qui n'exporte plus de sucre. Nous, on exporte encore un peu. Mais la Martinique n'exporte plus. Et même l'an dernier, je crois que la Martinique a acheté du sucre. Donc, il ne faut pas penser qu'on a la canne comme ça, ça va rester éternellement. Ça risque de disparaître, d'autant plus que pas la France qui, qui décide des traités, c'est l'Union européenne, signe des accords de libre-échange avec d'autres pays qui sont producteurs de sucre. Et plus récemment, hier encore, l'Europe a signé un accord avec le Mercosur. Et au Mercosur, il y a le Brésil qui est le deuxième producteur de sucre du monde. Et cet accord prévoit justement que le sucre du Brésil pourra rentrer sans droits et taxes en Europe. Donc c'est une concurrence pour notre production. La banane, c'est aussi le déclin. On avait un quota de 150 000 tonnes. On a fait l'an dernier 70 000 tonnes, donc à peu près la moitié. Déclin des productions traditionnelles, donc déclin des exportations. On produit de moins en moins. Alors je donne quelques chiffres que j'ai récupérés hier de l'IEDOM. L'IEDOM fait un rapport annuel chaque année et ça donne des chiffres très intéressants, des chiffres actualisés. Et dans tous les domaines, domaine de l'agriculture, des finances et tout ça. Je donne quelques chiffres. Notre taux de couverture pour légumes et fruits, c'est 55%. C'est-à-dire qu'il y a 45% des fruits et légumes qui arrivent d'ailleurs. Les bovins, 28% le taux de couverture. C'est-à-dire qu'on a plus de 70% de la viande que nous mangeons ici qui viennent de l'extérieur. Le porc, le taux de couverture, c'est 14%. C'est vrai qu'il y a des gens qui tuent des porcs ici, mais enfin, le porc que nous mangeons, en gros, vient de saler, en fait, tout ce que vous voulez, qui est accrochant tout ça. La viande qu'on vend dans les surgelés, ça vient de l'extérieur. Et volailles, c'est encore pire. Les volailles, c'est 10%. 10%. Le taux de couverture, c'est 10%. C'est-à-dire 90% des volailles que nous consommons, les fameux poulets grillés que nous achetons, hein, eh bien ça, les poulets ne viennent pas d'ici. Ça vient de France, de Bretagne, ça vient d'Irlande, ça vient de Grande-Bretagne, et ça vient même d'Ukraine.
C'était juste un extrait de la première partie de l'émission. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet.
Radio Sofaya Altitude.
La radio de votre cœur.
Alain parlait de ce que fait Trump aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qu'il fait Trump, fondamentalement? Il voit que l'Amérique est en crise en réalité aujourd'hui. Le dollar américain qui était la monnaie de référence, et je parle sous le contrôle d'économistes, maintenant le dollar est en train de perdre sa valeur. Pourquoi? Parce que les Chinois et les BRICS sont en train d'essayer de mettre une monnaie de référence qui deviendra une monnaie internationale de référence. Je parle sous le contrôle d'économistes. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Or justement, la dette américaine, elle est tenue par les Chinois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était 15 000 milliards de dollars. Maintenant, il paraît que ce soit 30 000 milliards de dollars. Ça veut dire que la monnaie américaine, qui est la monnaie de référence internationale, les Américains sont en situation de perte. Il y a d'une autre monnaie. Ce ne sera plus la monnaie de référence. Les gens, donc, vont pouvoir se débarrasser du dollar. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que la banque américaine elle-même, elle va perdre. Or, les Chinois, et ça je l'ai lu, ont vendu 8% de la dette américaine qu'ils possèdent. Et donc Trump, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est en train de se rendre compte de la situation de son pays, qui n'est plus aussi florissante que ça et qui est fragile. Alors ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont tout ça, mais l'économie américaine, elle commence à être fragile. Et c'est pour ça qu'il veut que, premièrement, des entreprises européennes viennent s'installer aux États-Unis. Et donc il augmente les droits de douane. Alors les conséquences sont aussi graves pour lui parce que les produits de douane, aux douanes plus chères, plus élevées, ça pose un problème pour le pouvoir d'achat des Américains. Mais enfin, il faut bien comprendre que ça n'est pas aussi évident que cela. Et nous devons nous rendre compte que notre situation est encore pire que celle des États-Unis parce que nous sommes un pays d'apparence riche, mais en fait nous sommes un pays très 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 fragile. Et pas seulement économique, mais aussi au niveau de l'environnement et tout. Et donc c'est la raison pour laquelle nous devons aujourd'hui nous prendre en main.
Moi, je suis plus catégorique que Robert ou Maurice. Je ne vois pas pourquoi un fonds de réserve va servir pour importer des voitures, surtout des voitures de luxe. Vous avez déjà vu mon intervention tout à l'heure pour dire que des terres agricoles disparaissaient pour faire des routes. Il y a trop de voitures en Guadeloupe. Il faudrait réduire de moitié. Donc, bloquer les importations de voitures et pour qu'il y ait uniquement des voitures utilitaires, des transports, des affaires comme ça. Et ça, c'est un produit, une partie de l'économie qu'il faudrait peut-être pouvoir analyser un peu plus profondément. Je profite du fait que je suis déjà là pour parler des coopératives de production agro-transformée. Et là, je suis un peu désolé. J'ai vu qu'on met la charrue avant les bœufs. Il y a donc du côté du Nord-Gonterre l'usine centrale. Et puis ces jours-ci, on voit le flyer sur Agropark au niveau des abîmes. Les usines de transformation, de production agro-transformée, eh bien, les produits primaires vont venir d'où? vont venir de l'Amérique du Sud. Et donc, nous serons toujours dans le même système d'importation avec des prix élevés qui vont faire que notre économie ne pourra pas se remettre. L'usine centrale, je sais qu'ils ont fait des protocoles avec les agriculteurs pour que les agriculteurs leur donnent leur production, mais je ne sais pas du tout, je ne connais pas les détails et je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais ça, c'est important. Mais à mon avis, ça ne va pas arriver à rémunérer les agriculteurs correctement et puis l'agrotransformation ne va pas marcher non plus avec le si peu de production.
Merci. Je suis très dubitatif depuis le début, surtout que depuis quelque temps, on est entouré de cette idée de Mercosur, par exemple. J'écoutais hier, je suis de nature quand même assez positif, je me disais, mais quel que soit le système qu'on mettra en place, il y aura toujours ceux qui seront pour et contre. On a vu les manifestations des agriculteurs français. Et regardez l'état de la France face au Mercosur, ça passe. Pourtant, la France, c'est quand même un état par rapport à nous. J'ai écouté hier au cours du journal, vous avez des agriculteurs, des producteurs qui vous disent qu'ils sont contents de cette orientation parce que ça va leur permettre d'avoir beaucoup plus de produits, moins chers. Ils ont même déjà pensé que ça pourrait revenir aux collectivités, aux hôpitaux, aux écoles. Les produits seront moins chers. Face à ça, vous avez des agriculteurs qui se battent parce qu'ils sont perdants. Donc, quel que soit le système que vous mettrez, il y aura toujours des contestataires. Et ce matin, en montant, hein, j'écoutais qu'il faut attirer l'attention sur les pesticides qui sont acceptés en Europe, pas en France, parfois acceptés dans d'autres pays d'Europe, pas acceptés dans les pays du Brésil, par exemple. Tout ça encore nous interpelle. Et nous nous rendons compte que, finalement, nous sommes presque, comme on dirait, des marionnettes. Par contre, je me disais, si nous proposer un nouveau système politique, nous avons autour de nous des pays de la Caraïbe, très proches de nous, ce sont pratiquement des voisins. Est-ce que vous avez un bilan? Je ne sais pas dans quel système ils sont, qu'est-ce qu'ils utilisent, vers quel pays ils se tournent, mais je pense qu'ils sont capables quand même d'avoir au moins une autonomie, une suffisance alimentaire. Est-ce que nous avons des exemples de ces pays-là où ça, entre guillemets, ça marche? Nous sommes conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Je ne suis pas pessimiste, hein? Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Tu nous parles de terrains qui sont pris pour les routes. Mais qui c'est qui veut rouler dans les embouteillages quand on sort de Sainte-Rose? Il y a 20 ans, 30 ans, on ne prenait même pas 15-20 minutes. Tout le monde veut des voitures. Quand on a proposé le tramway, il y a eu des contestations. Cela veut bien dire que nous sommes déjà dans un système de confort qui va nous demander tellement d'efforts. Je sais que tôt ou tard, il faudra qu'on explose. On va recommencer, ce ne sera peut-être pas nous. Il faut quand même qu'on y pense. On a raison d'y penser parce qu'en 30 ans, on ne sera pratiquement plus là. Mais je sais que ce sera compliqué.
C'est vrai qu'on peut être sceptique, hein, on voit comment ça se passe. Bon, alors, vous avez pris l'exemple du Mercosur où il y a des agriculteurs qui manifestent. Et d'autres, bon, ce plus grand nombre, ce sont les agriculteurs, hein, qui manifestent. Bon, il y a un syndicat qui est un peu pour le libéralisme, qui manifeste pas. Mais la plupart des paysans manifestent, surtout ceux qui ont des bovins. Des bovins, ils manifestent. Parce que dans l'accord, il est prévu, je crois, 90 000 tonnes de bœuf qui viendra du Brésil. Eux, ils ont des problèmes. Bon. Et donc, ils ont raison de manifester. On est dans un système libéral. Quand on dit libre circulation, ce n'est pas un système socialiste. Hein. Système socialiste, on essaie de faire en sorte que les gens vivent de leur travail. Tandis que là, c'est la loi de la jungle. Hein. Il y a des exploitations qui vont disparaître. Celles qui vont rester seront les plus costauds. Alors, vous avez parlé des pays de la Caraïbe. Moi, je ne connais pas vraiment ce qui se passe dans, sauf à Cuba, je connais un peu. Mais il y a un problème qui n'est pas simplement un problème économique. C'est un problème aussi de quel modèle de société qu'on veut. Si on veut une société capitaliste, libérale, c'est-à-dire qu'on est en Guadeloupe, en Martinique, mais on veut fonctionner comme les États-Unis, comme, je sais pas, la France. Ça ne marchera pas. Et vous êtes un petit, c'est comme si c'était un match de boxe. Et si vous mettez sous le ring un poids plume, un poids lourd, eh ben, le poids plume, même s'il a beaucoup de volonté, même s'il est bien entraîné, il perdra le match. Bon, donc nous, on est un poids plume. Donc si on a un poids plume, on ne peut pas lutter à armes égales avec les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut se protéger. Tout le discours vient, il faut se protéger. Et un pays africain, je ne sais pas si c'est le Cameroun, ils achetaient de la volaille venant d'Europe, de Bretagne. Des carcasses de volailles. des dégagements. Donc, à très bon prix. Et ça arrivait, ça inondait le marché. Et le président a dit non, on va arrêter ça. On va taxer. Il a un peu mis en place le système que je préconise et on va aider les producteurs. Et depuis, ils produisent suffisamment de poulet. Ils ont commencé à en vendre au pays à côté voisin. Donc, on voit que si on reste dans le système, on va se batailler en égal, on perd le combat. Et donc, c'est pour ça que c'est pas simplement le fait d'être indépendant. C'est pour ça que le programme est important. Moi, je préconise l'autonomie. Mais avant de dire l'autonomie, j'écris des livres. Et c'est à partir d'un livre que j'ai écrit qui disait « Conquête du marché intérieur », j'ai vu que la solution, ce n'est pas simplement d'avoir un drapeau ou une lime, il faut avoir une économie. Et pour avoir une économie, il faut remplir des conditions. Il y a des conditions à remplir, et notamment le type de production. Comment on produit ? Est-ce qu'on produit comme dans un pays capitaliste ? Ou est-ce qu'on produit à peu près comme la France a produit après la guerre ? C'est-à-dire, on est faible, on met en place des mécanismes. Ils ont mis ça en place. Quand il y a 14 pays en Europe, sur les 27, où il n'y a pas de SMIC. Donc ces pays-là, ils ont des salaires très faibles. L'Europe, c'est un ensemble de 27 pays, mais tous les pays n'ont pas le même niveau. L'Allemagne est beaucoup plus puissante que la Roumanie. La France est plus puissante que la Pologne. Ils veulent harmoniser, mais pour l'instant, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Il y a une compétition quand même à l'intérieur de ces pays-là.
La France est un pays agricole. L'Allemagne, c'est pas un pays agricole. Hein. L'Allemagne, c'est un pays plus industrialisé que la France. Donc, l'Allemagne est la présidente de la Commission. C'est une Allemande, hein. Faut pas l'oublier, hein. Celle qui a signé le Mercosur. Vous avez entendu parler des agriculteurs allemands qui se battent là ? Non. Les petits agriculteurs français, ils se battent parce que c'est leur survie. Et c'est pour ça qu'ils se battent contre le Mercosur. Parce qu'effectivement, quand un salarié agricole au Guatemala ou en Colombie, on lui donne 1 euro, eux, leur salarié, c'est 10 euros, hein. Et donc, leur vie sera plus chère. Donc, en réalité, le Mercosur, c'est un élément mortel pour les agriculteurs français. Mais ce n'est pas un élément mortel pour les Allemands, parce que les Allemands pourront faire rentrer chez eux les voitures, les machines, les télévisions et tout ça, sans droit de douane au Brésil, sans droit de douane en Argentine. Et donc, les intérêts ne sont pas les mêmes. Bon, en plus, la France est un pays qui se désindustrialise. Les vêtements français, on les vend en Chine. Hein. Lacoste, ils achètent en Chine. Hein. Ils achètent même au Bangladesh. Alors, je ne parle même pas de l'Éthiopie. Ça veut dire concrètement, c'est que même en Europe, et Alain le disait déjà, il n'y a pas les mêmes intérêts. En plus, l'Europe, c'est un marché. Les gens font ce qu'ils veulent, quoi. Bon. Mais je vais revenir au problème de la Guadeloupe pour les voitures. Effectivement, il y a 40 ans ou 30 ans, il n'y avait pas tout ça de voitures. Et je peux vous dire quelque chose, moi qui suis de la région de Basse-Terre, il n'y avait pas d'embouteillage pour entrer à Basse-Terre. À présent, quand arrivé à Basse-Terre, venant de Pointe-à-Pitre, on y a un embouteillage depuis Goubet. D'accord ? Non, mais moi je parle de la région de Basse-Terre. C'est-à-dire que quand tu es arrivé à 8h moins de quart ou 7h30 à Goubert, on a un embouteillage. Moi, pas déjà connaître ça. Et bouteille à deux routes, on pas te connaître ça. Donc ça concret ça. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, on a développé ici la pratique de la voiture individuelle sous le poids des lobbies de l'importation de voitures. Et nos politiques, mais je le dis clairement, n'ont pas eu le courage de résister à ça parce que j'étais qu'à financer campagne électorale à eux. C'est ça qu'il faut le savoir. Et c'est ça, c'est la réalité. Avec les conséquences sur l'environnement, madame. Avec les conséquences aujourd'hui. Nos enfants sont en train d'étouffer sous les sinusites et tout ça. C'est ça une réalité. Or, aujourd'hui, pourquoi? Parce que des politiques en Guadeloupe ont été menées. Je suis vraiment en colère quand je le dis. Parce que je vois des petits-enfants qui sont en situation de santé dramatique. Comprenez ce que je dis aujourd'hui. Il faut entendre ce qu'on dit. Et ce sont une responsabilité collective. C'est notre responsabilité. Parce que des gens ont subi, alors qu'il fallait plus simplement avoir une politique équilibrée de développement du transport en commun. Alors ils ont fait un tas de cinéma en disant qu'on connaît les lois françaises pour ça. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de politique de transport en commun aujourd'hui. Et qui est-ce qui prend les transports en commun réellement? Ce sont les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures. Parce que la personne qui touche 1000 euros, elle n'a pas les moyens de faire un crédit. Encore que je peux vous dire quelque chose, il y a des sociétés de crédit qui font des crédits alors que la personne n'a pas de l'argent pour manger. 6 mois après, on va-t-il en barré à Mouna. Ça, c'est des choses qu'on connaît. La réalité, c'est celle-là. Parce qu'il y a une politique en Guadeloupe de développement du transport individuel sous le poids des lobbies. Or, aujourd'hui, nous sommes en train d'étouffer. Concrètement, c'est ça. Alors, il faut avoir le courage de revenir sur cette politique-là. Et ça veut dire que si on a le courage, c'est-à-dire qu'on change de voie, Et on ne pourra pas le faire si on n'est pas dans une situation où on est responsable en Guadeloupe. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Dans un pays que je connais un peu, parce qu'ils étouffaient dans les embouteillages, ils ont voulu créer un téléphérique dans une capitale d'un pays. Je vais vous donner le nom après. Pendant qu'ils créent le téléphérique, les gens meurent de faim et les gens meurent de soif. Il y a 75% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. 25% vit très bien. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont descendus dans la rue. Et ils sont restés dans la rue pendant 20 jours. Il y a eu des morts. Le chef de l'État est parti. Ça s'appelle Madagascar. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Alors aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'on va descendre dans la rue pour se faire tuer. Hein. Mais aujourd'hui, il faut qu'on prenne nos responsabilités de Guadeloupéens et qu'on arrête de raconter des histoires en disant que ce n'est pas faute en nous, c'est faute à les autres. Parce que les conséquences pour nous aujourd'hui sont graves. Sont graves pour nous et pour nos enfants, en plan économique, mais au plan aussi de l'environnement. Parce que ce qu'a dit madame doit nous interpeller. Et ça, c'est une politique globale que nous devons assumer en tant que Guadeloupéens, en faisant les choix essentiels pour notre pays. Excusez-moi, je suis un peu passionné parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche.
Radio Sofaya, 88.5, toujours plus proche de vous.
Pour ceux et celles qui nous rejoignent maintenant, nous parlons de l'autonomie économique de la Guadeloupe. Émission numéro 2, débat réalisé à la salle paroissiale de Prise d'eau.
Je vais faire référence à quelqu'un qui devait être là, qui est absent. Monsieur Étienne Kahn, qui me dit très souvent, nous sommes un petit pays qui voulons vivre comme un pays industrialisé. Parce qu'il faut savoir que ce monsieur a eu des démêlés avec des ministres des départements d'outre-mer qui ont voulu confondre le domaine associatif et le domaine politique. Il faut dire aussi que c'est quelqu'un qui a eu des démêlés avec les préfets pour l'eau. C'est quelqu'un qui a eu des démêlés avec les communautés des communes, avec nos maires. Il fait dire à tout le monde, et particulièrement aux jeunes, de porter manœuvre, parce que si on pas porter manœuvre, tout bien la pède. C'est ce message qu'il m'a dit de vous transmettre aujourd'hui. Étienne Kahn. Il vous fait dire aussi, bien que ne pouvant pas venir, ceux qui veulent venir le rencontrer, il est à leur disposition.
Bonjour, je suis Lovel Kay. Ma question, c'est concernant tout ce qui passe en Guadeloupe, surtout l'insécurité, quel apport et support apporter en termes d'aide pour les enfants, les femmes, pour une justice de paix équitable et valable?
Ça n'est pas strictement une question sur l'économie, mais elle est intéressante aussi. Elle interpelle la Guadeloupe. La Guadeloupe en tant que collectivité, nous n'avons pas les moyens, nous, en tant qu'association ou en tant que groupe, parce que nous n'avons pas les leviers du pouvoir. Une première réalité. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que tout d'abord, il faut comprendre pourquoi il y a la violence. Il faut être sensibilisé en se disant pas simplement, ça fait comme ça, on en parle avec les voisins, la tête est tournée après. Être conscient de cette réalité-là qui nous touche. Ensuite, essayer de comprendre pourquoi ça se passe. Alors, il y a plusieurs raisons et plusieurs causes. Alors, la réflexion, elle n'est pas simplement individuelle. Il faut aussi que la réflexion soit collective. Parce qu'on ne peut rien faire seul. Jésus a eu besoin de disciples, hein, a eu besoin d'apôtres. Hein. Et donc, on ne peut pas faire ça tout seul, même s'il y a un guide. C'est ça qui est important de comprendre. Et ensuite, à notre niveau, c'est rentrer dans des associations qui se battent contre ça. Parce qu'il y a des associations qui se battent contre ça. Il y a des associations qui sont actives pour permettre non seulement de prendre conscience de ça, mais pour pousser à ce que ces choses-là ne continuent pas. Des associations comme l'aide aux victimes, il y a des associations de quartier, ou alors prendre l'initiative de créer aussi l'esprit en nous papoc. C'est-à-dire prendre des initiatives aussi en tant qu'individus chrétiens, non chrétiens, dans nos quartiers, dans nos communes, pour pouvoir permettre justement à une prise de conscience et à amener aussi à une éducation. Alors effectivement, aujourd'hui, la Guadeloupe est touchée par un phénomène qui s'appelle le phénomène de la drogue. Ça, c'est important. Mais je vais vous dire quelque chose. Si pas ni sous-tiré, pas ni volé. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de vendeurs. Hein. C'est-à-dire que notre pays est gangréné par aussi les consommateurs. Et moi, je vais vous dire quelque chose de très clair. Hein. Moi, je suis pour qu'on sanctionne encore plus durement les consommateurs. Et pourtant, tu connais mon métier. Il n'y a pas seulement les malades. Les malades, on les soigne. Mais il y a des consommateurs qui sont conscients de ce qu'ils font et qu'il faut aussi arrêter cette situation-là. Moi, je suis d'accord pour une sanction plus sévère des consommateurs. Alors, peut-être pas les mettre en prison, hein. je n'ai pas dit qu'ils vont les mettre en prison, mais les atteindre au porte-monnaie, par exemple. C'est ça la réalité. Et donc, tenir compte et du vendeur et de l'acheteur. Parce que si pas ni sous-tiré, pas ni volé. La question, c'est nous, citoyens, qu'est-ce que nous faisons pour permettre ensemble, pas individuellement, c'est pas la peine de se suicider tout seul, on va pas se mettre devant des situations comme ça. Là. Ensemble, pour permettre à ce que nous faisions prendre conscience aux autres, que nous agissions en tant que citoyens collectivement, et puis comme disait Alain, que nous puissions aussi voter pour des gens qui prennent conscience de ça. Parce qu'il y a des gens qui profitent de ça, hein. Il y a des élus qui profitent de ça aussi, hein. Inconsciemment, parce que quelquefois, faut pas se leurrer, en Guadeloupe, ça existe aussi, hein. Il y a des financements de partis politiques par des discrètement, il y a quand même l'argent comme ça. Faut pas vous leurrer, on n'est pas dans un pays de bisounours, hein. Comme certains ont financé des campagnes électorales pour les voitures, d'autres aussi, par d'autres moyens, aident. Le combat que nous devons mener sans désespérer, en sachant aussi, c'est un combat qui se mène tout le temps. Faut pas se dire qu'on arrivera à une solution globale d'un seul coup. Il faut être patient.
Ce qu'on observe aussi, c'est une conséquence de certaines choses. Et quand tu parles de conséquences, Alain l'a évoqué, on est sur un taux de pauvreté qui est à 34% dans nos régions. Alors, je n'ai pas forcément mené d'études là-dessus, mais en général, le phénomène de violence est lié aussi à ce phénomène de pauvreté. Si on a une société où il y a moins de pauvreté, où tout le monde est plus épanoui, on aurait moins de phénomènes de violence. Donc, on penserait moins à mettre en place des mesures pour lutter contre la violence, parce qu'il y en aurait beaucoup moins. On n'a pas beaucoup évoqué la question du développement intégral qui est sur l'invitation qui a été donnée. Pour moi, en fait, de mon point de vue, hein, on est plutôt sur une utopie pour le moment en parlant de développement intégral si on n'a pas déjà même les bases de ce développement intégral. Le développement intégral, si on le résume assez brièvement, le développement économique serait juste un moyen, mais pas une fin en soi. Et on placerait un peu plus l'humain à toutes ces dimensions, hein, c'est-à-dire la dimension spirituelle, la dimension culturelle, la dimension économique, environnementale. Pour arriver à cela, il faudrait déjà avoir quand même un socle, une base. Et quand tu évoques le point d'avoir une société où on aurait moins de violence, on serait déjà un peu plus dans cette idée de développement intégral. Où on est quand même un peu loin, comme Alain aussi le disait, on est loin de l'autonomie, la souveraineté alimentaire, mais aussi pour le développement intégral, on en est loin parce qu'on n'a pas encore déjà même les bases du fondement pour arriver là-bas.
Parce que globalement, on a fait un constat qui fait mal. Une société en désordre. Et derrière tout ça, il y a toutes les questions qu'on s'est posées, et pourquoi et comment s'en sortir. Mais ma question là, c'est un peu... toute l'Assemblée, est-ce que devant ce qui se passe là, est-ce que bon, nous ne sommes pas les seuls à réfléchir et à commencer à réagir ou à continuer de réagir, mais quels sont les signes d'espérance que vous voyez déjà dans notre société? Quels sont les beaux gens qui écartent la vieille écorce là, qui... Est-ce que des comportements, des initiatives, des témoignages qui il faut se les partager aussi pour nourrir notre propre espérance. La question est posée à tout le monde.
Je peux apporter quelques éléments. Bon, c'est très léger, hein, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup, effectivement, de risques, qui est quand même assez, effectivement, pessimiste, ou en tout cas, voilà, qui... Mais c'est la réalité. Après, c'est vrai que les initiatives comme celles qu'on partage cette matinée, ça fait partie justement de ce qui peut laisser optimiste, justement. Il faut savoir qu'il y a un hasard qui est quand même heureux, c'est-à-dire qu'à l'université également, cette question, elle est aussi d'actualité. Et il y a une conférence qui a été programmée au mois de mars, donc tout le monde peut y prendre part. Donc la thématique de la conférence, elle est très évocatrice, c'est « Si bateau pas arrivé, qu'a nous qu'a fait ?» Donc là, c'est exactement dans la thématique de ce qu'on partage ce matin. Et c'est une conférence qui aura lieu à l'université. Donc l'optimisme veut que c'est quand même, il y a une conscience collective qui est en marche et qui pourrait éventuellement, dans un temps peut-être plus ou moins long, aboutir à quelque chose par la suite. Donc ça laisse quand même une lueur d'espoir, une piste d'optimisme.
Il y a aussi un peu dans le même sens tout ce que nous dit le docteur Henri Joseph depuis quelques années. et d'une manière très positive, enfin lui et tous ceux qui travaillent avec lui et qui suivent sa perspective. Mais, de fait, il dit bateau là pas entré, mais tout ça nous peut fait, avec toute richesse nous n'y ici dedans. Et là aussi, il faut être réaliste. Oui, alors mais continuez de chercher les signes d'espérance autour de vous. Il y a KBM aussi, oui, qui est encore une autre initiative, mais quand Kiaba qui réagit par rapport à des injustices flagrantes, et qu'il faut voir comment les gens s'accumulent et viennent tout de suite le rejoindre dans des actions aussi. C'est tout cela qui est nécessaire.
Oui, oui, effectivement, le mouvement KBM, depuis plusieurs années, lutte beaucoup pour l'autonomie alimentaire et remet sur le marché des choses disparues. Nous qui arrivons, faut nous arriver, nous partis pour arriver. Et le père Blanchard a aussi raison, Hubert Kiaba et le LCDM luttent contre l'injustice au quotidien. Alors maintenant, nous allons passer aux questions-réponses, les échanges avec le public.
Après le débat riche qui a été porté par nos deux intervenants, nous allons passer maintenant au questionnaire. Alors, il y avait trois questions. Après le texte sur le développement intégral, il y a une première question. Qu'est-ce qui me paraît important? Je repère au moins 10 points importants. C'est la première question. La deuxième question. Quand je regarde notre réalité, celle de la Guadeloupe, quels sont nos manques, nos erreurs, nos impasses? Et la troisième question. Que nous faut-il faire pour corriger et avancer vers un développement plus intégral, intégré et durable? Est-ce qu'on peut passer à la première question? Qu'est-ce qui me paraît important dans le texte que nous avons lu? Alors, le texte a été préparé par la Commission Justice et Paix et particulièrement par le père Blanchard. Particulièrement. Qu'est-ce qui me paraît le plus important? L'individualisme?
Je vais donner l'introduction simplement.
Oui, vas-y, donne.
Bien. L'encyclique Populorum Progressio, paru il y a 50 ans, c'est du pape Paul VI. Alors que dans nos contrées occidentales, le développement personnel apparaît comme un phénomène culturel nouveau. L'Église catholique parle depuis le pape Paul VI de développement intégral. Que recouvre cette notion? Le pape François est revenu sur ce concept développé dans l'encyclique Populorum Progressio, paru il y a 50 ans. Le Saint-Siège vient également de créer un nouveau dicastère
consacré au développement du humain intégral.
L'introduction a été lue. Je reviens à la question initiale. Maurice a déjà donné une piste, d'ailleurs. Le développement intégral doit s'asseoir sur un développement réel. C'est un développement intégral intègre des valeurs qui sont culturelles, humaines, sociales, éducatives, spirituelles. Mais ça s'appuie sur un substrat concret, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont en l'air. Hein. Je traduis ta pensée, Maurice. Hein. Si tu peux me reprendre, il n'y a pas de problème sur ça.
Intégrale, intégrée et durable. Alors, intégrale, ça veut dire tout homme, toute personne humaine, disons, sur la Terre, et toute la personne dans toutes les dimensions de sa vie. Intégrale, et en même temps, ce qui est dit là pour une personne, c'est pour tous les membres de l'humanité à chaque génération. Le développement intégral de la personne humaine et de tous les peuples. Un développement intégré, ça veut dire que quelqu'un naît quelque part, il est dans une famille, dans une culture, etc. Il va être intégré à son peuple. Mais le développement intégré, c'est de développer pour le peuple, à partir des richesses naturelles et humaines de l'endroit où l'on est d'abord et du monde global en général. C'est-à-dire Guadeloupe, et bien Guadeloupe, c'est une terre, deux ailes du papillon, calcaire, volcanique, il y a de la forêt, il y a du vent, il y a de l'eau de mer. Il y a des rivières, il y a des mares, la mer avec ses poissons, et puis de l'eau chaude à 30 degrés, 31 en hivernage, et puis mais en profondeur, toujours de l'eau froide. Et en Islande, il se réchauffe. à partir des sources chaudes, le chauffage fonctionne chez eux, et à partir des mêmes sources, eh bien, il y a la climatisation pendant l'été. L'eau chaude et l'eau froide, comme en bouillant, intégrer c'est tout ça qui est alentour. Là où il y est, la famille où il y est, la paix pour quoi vivre. Le docteur Henri Joseph, il dit bien, il faut nous manger ça qui est en nous, c'est-à-dire tous les vivants qui ont respiré même l'air qui nous, intégrer. Alors intégrer aussi dans sa région. Région Caraïbe, il y a la difficulté qu'on a à développer des relations commerciales avec la Caraïbe. Et aussi, d'une manière générale, dans la globalisation du monde d'aujourd'hui, où chacun a sa place et doit avoir sa part. Est-ce que vous avez retenu aussi d'autres points dans la lecture ou que vous avez déjà noté?
Comme point, j'ai mis solidarité, contribution, inclusion, dignité et liberté.
Alors, à propos de solidarité, je vous dis tout de suite, je leur parlais tout à l'heure d'un certain film qui a pour titre « Milagro », le miracle. Et c'est un film qui raconte justement quelques propriétaires riches en Amérique latine, dans un pays, avaient capté toute l'eau. Et il y avait une masse de pauvres qui mouraient de soif et de faim dans toute la région environnante. Et petit à petit, ils se sont organisés et s'associer, agir, des actions à mener, etc., auprès d'autant du pouvoir qu'auprès de ceux qui étaient en face et puis qui avaient l'eau. Et il y a eu des conflits, il y a eu la division dans les groupes, etc. C'est toute l'histoire du film. Et le miracle, c'est que les pauvres ont fini par gagner ce jour-là, dans ce pays-là.
Pendant que tu parles de miracle, il y a un roman, il y a un auteur haïtien, Jacques Roumain, qui s'appelle « Gouverneur de la Rosée ». Et il y a le film aussi. C'est un grand roman qui montre comment la solidarité... C'était le problème de l'eau, d'ailleurs. Le problème de l'eau. Comment la solidarité des hommes est arrivée de régler la question de l'eau. Alors, ce n'était pas des riches et des pauvres. Hein. Il fallait trouver de l'eau pour faire vivre une région, quoi. Et c'est un roman qui a été beaucoup lu dans les pays européens, à l'époque dans les pays socialistes aussi, parce que ça montrait... Et ça, il a eu un grand retentissement dans le monde. Et parce que ça montrait la solidarité d'un groupe humain, particulièrement en Haïti, puisque Jacques Roumain était haïtien. Et donc cette notion de solidarité que tu soulèves aujourd'hui et que vient de montrer la sœur ici, c'est important en fait. Parce que c'est pour ça qu'on essaie de créer le sentiment de collectif. Et c'est le collectif qui est la solidarité. Inclusion. Alors... Qui veut expliquer l'inclusion ? Moi, je ne vais pas monopoliser la parole, hein, quand même.
Oui, c'est être intégré dans sa famille, dans son peuple, dans son pays, dans son environnement.
Est-ce qu'il y a encore d'autres réponses sur la première question ? S'il n'y en a pas, on va passer à la deuxième question. Quand on regarde notre réalité, quels sont nos manques, nos erreurs et nos impasses ? Pardon ? Absence de vision commune ?
Le manque d'implication.
Le manque d'implication, donc individualisme, l'absence de vision commune, le manque d'implication.
Et peut-être se dire on laisse les autres s'en occuper.
C'est ça, le manque d'implication, le manque de courage.
Et aussi le manque de spiritualité.
Oui. Le manque de conscience en fait, oui. Et de spiritualité, oui, le manque de conscience.
Ne pas regarder la réalité en face.
Ou alors remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est, en fait, c'est ça notre défaut. Hein. On est conscient quelquefois, mais on se dit, eh bien, qu'est-ce qu'il fait plus tard? Et en réalité, plus tard, il y a trop tard. Voilà, il ne faut pas trop tamarrer, nous. Oui. Alors, ça, c'est lié au manque de formation aussi. Parce que si tu ne sais pas, tu ne peux pas connaître quelquefois le non-désir de se former, la non-volonté de se former. Parce que ce qu'on a appris aujourd'hui avec Maurice et Alain, c'est une formation pour nous. Alors on a été un peu virulent, moi particulièrement, mais c'est vrai, hein, ça s'appelle la passion. C'est important quand on soulève les questions économiques, quand on soulève les questions liées à l'environnement, avec les conséquences qu'il y a, ça montre manifestement que bon, se former, c'est important.
C'était aussi Maxime Gorky qui a dit une phrase que je retiendrai toujours, « La connaissance est un butin ». C'est-à-dire quand on est à la connaissance, on est riche, quoi. n'est pas riche d'argent, mais on est riche parce que quand on regarde la télévision, on a la connaissance, on a un esprit critique. On ne va pas avaler tout ce qu'on entend. Tandis que tu n'as pas connaissance de Guadeloupe, ça. Et pour ne pas dire ça, oui, j'ai entendu des gens dire, c'est son petit mal, hein. Bon, tu vois. Ouais, parce que la connaissance, et la connaissance, c'est dans les livres. Hein. On peut apprendre aussi à la télé. Hein. Il y a des bonnes émissions comme Planète, tout ça. Mais la plupart du temps, la connaissance, c'est la lecture. Et on abandonne la lecture, notamment les jeunes maintenant, les réseaux sociaux, c'est TikTok et tout ça. Mais ce n'est pas la connaissance, hein, ça. Hein. C'est même pas d'information. Même c'est la désinformation. Donc il faut. Je suis content, j'ai vu qu'il y a pas mal d'entre vous qui avez acheté les livres. Mais je pense que c'est important. Moi, je consacre au moins une heure par jour à la lecture. Ça ne m'empêche pas de faire autre chose. Hein. Mais comme je ne fais pas de sieste, après le repas, je lis pendant une heure. Je peux lire un magazine, je peux lire un livre, je peux lire n'importe quoi, mais ça fait partie de mon quotidien. Et quand on a ça, on a l'esprit critique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avaler tout ce qu'on entend. Parce que si on avale tout ce qu'on entend, on se fait manipuler. On peut aller même contre ses intérêts. On parlait tout à l'heure des gens qui votent l'extrême droite. Ils ne savent même pas que l'extrême droite est raciste. Comment tu peux être un nègre ou un indien et pour l'extrême droite? Et l'extrême droite est une théorie raciste. Bon, c'est parce que les gens, ils ont vu simplement la télévision, Le Pen, ou Bordela. Il est bien habillé, hein. Oh, monsieur un bel garçon, hein. Bon, comme aller bien. Bon.
Les jeunes qui ne réfléchissent plus. Moi, je trouve que c'est vraiment grave parce qu'ils n'ont pas l'esprit critique. Ils ne l'auront pas, puisqu'ils sont toujours sur leur portable et c'est le portable qui réfléchit à leur place.
Il y a aussi l'aspect dans la solidarité par la transmission. Autrement dit, c'est là qu'ils avouent, c'est là qu'ils savent, et les autres savent ils bon. Mais il faut aussi avoir soif et faim de connaissances en face de celui qui veut transmettre.
Oui, alors nos erreurs, c'est que nous voulons avoir beaucoup de confort et nous ne savons pas réduire notre niveau.
Le manque d'humilité. Mais il y a un proverbe guadeloupéen qui est très simple. Grand famille, nous t'a dit, pas connaître mauvais. Racine et ses voisins, on continue. Alors, nos impasses.
Alors, j'ai mis trop de violence et beaucoup d'échecs scolaires, des vies brisées.
Ça fait partie de nos impasses.
Oui.
Beaucoup de violence, d'échecs scolaires, oui.
Et elle a dit des vies brisées.
Les conséquences, quoi. La conséquence, ce sont des vies brisées. Oui, ben, ce sont des impasses aussi. Ce qui a été soulevé aussi pour le développement durable, dans la parole de madame tout à l'heure sur le développement. Les conséquences aussi que ça a sur nos vies elles-mêmes, pour la façon de vivre elles-mêmes, ce sont des impasses aussi. Parce qu'on est enfermé dans quelque chose qui nous étouffe, avec des conséquences sur la santé, conséquences sur le vivre ensemble. Maintenant, les gens sont enfermés entre eux et ne supportent plus l'autre. Ce sont des conséquences, ce sont nos impasses aussi dans nos vies. Et puis, disait Albert Blanchard, le manque de spiritualité, c'est aussi une impasse. Parce que l'homme ne vit pas seulement de manger, boire et avoir une voiture. Hein. Il vit aussi de tout ce qui vient de la parole de Dieu et d'ordre spirituel. Et c'est ça le problème, avec les conséquences que ça a sur nous et sur la façon de vivre. Et on parlait de développement intégral, et bien c'est aussi une forme d'impasse de ne pas arriver à ce développement-là, même si la base doit être faite, comme a dit Maurice.
La morale en général, ou même des règles de droit, reposait sur des notions bibliques.
Est-ce qu'on a fini avec la deuxième question? Oui, vas-y.
J'ai envie d'ajouter nos déceptions, et elles sont de tout ordre. Hein. On est parfois déçus face à l'Église, face à l'école, face aux forces politiques, face à la société qui nous entoure, et ça nous oblige parfois à faire marche arrière. C'est pour ça que je parlais de courage, parce que quelquefois, quand tu entres sur ces terrains-là, tu sais que tu vas te faire attaquer, tu vas prendre des coups, comme on dit, et on est souvent déçus, donc on se referme.
Fuir nos responsabilités et rejeter toutes les responsabilités sur les autres. Nous ne faisons absolument rien de mal. Ce sont les autres qui le font.
Les égaux surdimensionnés. Alors, y a-t-il d'autres réponses à cette question? Eh bien, nous passerons à la troisième. Que nous faut-il faire pour corriger et avancer vers un développement plus intégral, intégré et durable?
Je crois que nous avons parlé de prise de conscience. Donc, c'est prendre conscience de la gravité des choses.
Oui, c'est une première réponse.
Prendre conscience que c'est ensemble que nous construisons notre pays et pas individuellement.
Deuxième réponse.
Développer l'empathie, mieux comprendre l'humain, s'engager dans son diocèse et dans sa paroisse et dans son quartier. Aider l'autre, apporter un plus à l'autre quand on voit qu'il souffre.
Troisième réponse, oui.
Comprendre, accepter et utiliser notre pouvoir. Alors, on a un pouvoir, tout le monde a un pouvoir, donc on fait deux, avec deux cartes, la carte électorale et la carte bancaire. Donc, oui. Si on utilise bien sa carte bancaire, on se rend compte que finalement, à la limite, on a le pouvoir sur pas mal de choses. On peut décider, par exemple, je ne consomme plus les produits importés.
Oui.
Donc, ça change radicalement les choses. Comprendre le pouvoir de cette carte bancaire, enfin, le pouvoir économique que chacun a individuellement.
Oui.
Et pouvoir l'utiliser pour se dire, OK, vraiment, je vais favoriser plutôt les produits d'ici, favoriser plutôt certaines personnes, etc., etc.
En fait, faire des choix adéquats.
Je vais parler de oser. Oser. Quel que soit, parfois on fait des actions, on ne voit pas toujours la portée des choses et l'engagement. Je fais partie du Secours catholique. Nous rencontrons des personnes en situation de précarité. Nous leur proposons un dispositif à partir de paniers de légumes. À travers cette activité, on ne fait pas que leur donner. On leur fait prendre conscience aussi qu'ils ont des attitudes, qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des talents, comme on dit. Et c'est un plaisir pour eux, à travers les ateliers que nous leur proposons, soit de découvrir certains légumes et fruits, parce que nous avons mis en place ce dispositif avec bien entendu, avec la délégation, et nous faisons vivre des producteurs de la région. Et cela nous permet de leur offrir un panier, je ne rentrerai pas dans tous les détails, de leur offrir un panier dans lequel ils vont retrouver des fruits et légumes qu'ils ne peuvent pas forcément avoir envie de consommer. Consommer surtout des fruits de saison et les découvrir sous des aspects différents. Genre, par exemple, je vois que le camagnoc, il y a des gens qui ne connaissaient pas. Et on a dû faire quand même une petite leçon de cuisine avec eux pour savoir comment consommer ce fruit. Et je trouve que ce sont des petites actions, mais qui sensibilisent autour de nous et qui vont se répéter puisqu'ils vont le transmettre à leurs enfants, etc. C'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on ose et que quelle que soit l'action qu'on fait dans une association, là où on est, je pense par exemple à Richard avec son jardin foyer, l'association foyer qui fait du Arnoulin, monsieur Arnoulin, qui pourrait pas le nommer, qui fait l'intervention sur le jardin médicinal et proposer aux familles, même si c'est dans un petit pot, planter un petit peu de cive, planter un petit peu de céleri, je n'en sais rien. C'est toujours 1 euro, 2 euros, 3 euros de gagner sur le porte-monnaie, surtout qu'on sait que c'est difficile pour tout le monde.
Il y a une chose que vous avez dit, valoriser l'autre aussi. Ça, c'est important. Valoriser l'autre. C'est-à-dire l'encourager en lui montrant que ce qu'il fait porte une contribution autour de lui. Le valoriser, parce qu'il faut savoir faire ça aussi, parce que c'est un moyen aussi de l'encourager. À partir de ce que tu disais tout à l'heure, l'encourager à, premièrement, à être et à faire.
Je disais surtout que ce sont des familles qui sont en situation de précarité et nous savons notre orgueil, nous connaissons quand on n'a pas, on se fait tout petit, on est absorbé par les soucis. On disparaît presque, notre image même personnelle disparaît. Donc c'est une occasion pour eux de se retrouver, on les valorise à travers ces ateliers-là.
C'est aussi
et de retrouver leur dignité, c'est le maître mot.
C'est aussi une forme de désaliénation. Arriver à ce que on puisse arriver à ce que l'autre valorise, donc sorte de ce qui le du poids qu'il subit. Et la désaliénation, c'est ça en fait. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand on tue les gens, c'est un génocide. C'est un génocide, c'est un crime contre l'humanité. Ça, c'est une réalité. Mais je pense que l'aliénation, c'est aussi un crime contre l'humanité. Et notre problème en Guadeloupe, et je discutais de ça tout à l'heure avec Maurice, c'est que notre aliénation nous empêche de faire des choses que nous pourrions faire, mais nous avons peur. Alors, nous avons peur de ne pas faire bien, ou nous voulons faire comme l'autre, qui n'est pas nous. Et c'est ça qui est grave. En fait, on devient comme un zombie dans notre pays. Parce que, en fait, l'autre a fait que nous lui ressemblons au lieu de nous ressembler. Et c'est ça qui est important. Et c'est l'aliénation, c'est le plus grave, à mon sens, hein, le plus grave des crimes contre l'humanité.
Oui, je puis continuer en disant que c'est aussi leur, si on n'est pas sûr de soi, le regard de l'autre fait que automatiquement on s'enferme. Donc on s'enferme déjà dans notre prison, puisqu'on peut parler de qualités. Je reviens donc dans le passage donc de la Bible où on dit chacun a des dons et chacun ses domaines, chacun, le monde Dieu nous a donné tellement de choses qui sont autour de nous. Donc, à travers ça, on a parlé de jeunesse tout à l'heure, mais la jeunesse, c'est clair. On ne peut pas tout rejeter à la jeunesse. On ne peut pas tout rejeter à ça. Mais qu'on se dit, quand il y a des, dans la chaîne, quand il y a des maillons qui manquent, quand il y a des manquements, qu'on sait regarder avec une manière de se dire là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps. Là, ce qu'on fait ce matin, je trouve ça génial. Je remercie Jean-Marie qui m'a invité, mais je trouve que de plus en plus, le fait de s'asseoir et de parler, même en étant sur la même longueur d'onde ou pas du tout, justement, je trouve que des fois, la meilleure des choses, c'est pas être d'accord sur tout et pouvoir s'entendre. Parce que écouter déjà, regarder l'autre, ne pas se sentir d'un autre niveau, donc en fin de compte que les connaissances soient et on met en commun, je trouve que c'est cette démarche-là que petit à petit, on peut donner à un jeune. Et on rentre déjà dans l'éducation. Et on parle de quoi? La connaissance, donc l'éducation, le savoir-vivre aussi. On parle de soi. On parle de violence, mais la violence, c'est quoi? C'est une gestion de ses émotions, gestion du stress. Comment je suis et pourquoi je ferais la connerie avant d'y penser? Mais c'est de réfléchir. Et je prends ma position. Donc, je fais le calcul. Ça, c'est bon pour moi ou pas? Un truc qui dit, petit poule, suive petit canard, et n'ayez. Donc, en fin de compte, on peut, en ces cas-là, refaire tout ce qu'on voit, hein, et se dire, moi, je suis qui? Dans le pulse qui est, donc, ma vie, je suis ma position. Et je pense que de tout, c'est ce qu'on peut apporter à quelqu'un. Alors, je parle de jeunesse parce que je suis un peu dans le domaine, mais je vois ça aussi sous des gens à un certain âge qui se disent maintenant, je sers à quoi? C'est ça. Et ils ont passé l'âge. C'est pas la retraite qui fait quoi que ce soit, mais ils sont là, ils ont toute la connaissance, mais ils se disent, mais personne ne vient me voir, personne ne m'appelle, je ne serai à rien. Mais à rien, mais ils sont là. La connaissance est comme un butin, mais en fin de compte, les gens qui sont à côté de nous sont comme une richesse. Et malheureusement, c'est quand on les perd, on se rend compte de ce qu'on avait. En ces cas-là, c'est donner à chacun l'importance de sa présence. Puisqu'en fin de compte, on peut être là et ne pas... être absent pour quelqu'un. Mais en fin de compte, on arrive à plus voir la personne et se dire, ah mon Dieu, si maman t'es là. C'est là que c'est dommage. Et donc, je trouve que l'instant présent, c'est ce qu'on peut donner à quelqu'un. Je vais ressortir de là aujourd'hui en me disant, mais tiens, il y a quand même des gens qui réfléchissent, et des gens qui peuvent nous apporter quelque chose en se disant, mais là, mais ça aussi, c'est donner le champ à des gens qui peuvent t'inviter à venir. Te dire, mais tiens, là aussi, viens écouter ça, viens voir ça. Et là, je trouve que c'est ce qui est moteur.
Le mot n'a pas été prononcé. Il me semble qu'il faut savoir écouter, comprendre et surtout pardonner. Si possible, oublier, ne pas encombrer son esprit avec de la haine, du mépris ou autre chose. Il faut savoir se libérer de tout cela.
Oui, je voudrais dire aussi que pour transmettre, je donne l'information que nous essayons de transmettre ce que nous découvrons aussi par les émissions tous les samedis, l'émission de Justice et Paix sur Radio Massabiel. C'est les petites gouttes d'eau de chaque semaine aussi qui font comme le colibri porter sa part.
Juste des petits mots, hein. Alors nous avons trouvé qui bien et en tant qu'invie. Nous, tout ça qui paye là, yo ka vive, fait aussi, c'est nous parler, le voir des mondes, nous qui de plus en plus isolés, nous d'ailleurs portables, nous télé à nous fermer à dans cas en nous. Alors, moins ça, en cas voyant important, parce qu'en cas changer, en cas voir, par exemple, à Bouillante, là, yo, à d'anti-section, yo ka kye Koubaril, yo fait un petit comité, moun Koubaril, mais ça vraiment extraordinaire, parce qu'avant, là, on était petit, en cas voir son côté, t'es pas que vie. C'est moun na, yon te connaître l'autre, etc. Les enfants te ka vivre ensemble. Donc, ça nous parle, là, nous parler de transmission, ça te ka fait tout naturellement. Eh ben, quand y'est là, nous venons, j'en parler d'individualisme, mais c'est ça. Est-ce qu'il faut nous piquer peut-être aussi, changer, là nous qu'à vivre, créer un petit comité aussi, où là c'est mon appel contre, par exemple, on dimanche après-midi, en fin d'après-midi, côté 4h, trouver tout ensemble, grand monde, enfants, tout, hein, mélanger les vieux, les jeunes, les moins jeunes, et parler tibouin de gens vilatéliers avant. Transmission, montrer, par exemple, qu'on fait un petit jardin aussi, à l'entour local là, jardin créole, ils ont commencé, eh bien, avec les jeunes qui là, parce qu'on remarque que ces jeunes-là, pas ça, qui est bon ça, ben, des jeunes garçons, peut-être qu'ils imaginent ça, ni en trentaine, quarante ans, peut-être qu'ils imaginent ça, un jeune garçon, il peut pas, couper un pied broyé, hein, alors que souvent, c'est des jeunes qui capturent dans, en campagne, dans la campagne. Donc, pour moi, ça aussi, faut nous être veillatifs par rapport à ça, là, nous qu'à vivre, est-ce que nous peut pas, provoquer des bitins comme ça, demander les voisins, les mon alentour, en nous contrer, quand nous peut faire dans le quartier là, pour peut faire vivre, tibouin, tout ça a été fait, et qui peut aussi, redez-nous, lever tête, parce que tout ce qui est transmission, les jeunes là, y'a qu'à voir, gens, y'a vivre, ou qu'à faire un jardin, ou qu'à montrer, y'a qu'à dire, planter ça, faire ça, ou alors, ou qu'à raconter des contes aussi en temps longtemps, qu'il dit là, c'est important. Qu'il dit là, c'est important. L'eau, faut nous pas obliger à attendre des grandes associations, des grands bitins, mais l'ennuyer à dans des petits points, provoquer ça, ça aussi, pour moi, ça a une importance. Hein? Puis tout chaque monde arrêté en Casayo, le dimanche, l'heure finie, ou fait ici, ça, ou lever, eh bien, ou quoi vous trouvez ensemble, et ou quoi vous faites quartier là, vivre. C'est important, pour moi.
Merci pour contribution. Où j'ai bien contribué, hein? Vous là. Oui. Où j'ai bien contribué. Parce que chanson là, là qu'on chante là, là qu'on dit belle parole là-dedans. Son parole, à pas parole en l'air, c'est parole la vérité. Le temps passe. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Si Pani, une dernière intervention. À qui dis et à qui dis yo, merci pour ça supporter nous aujourd'hui là. Maurice et Alain. Vous pouvez parler tout à l'heure. Et pour merci là, ça, pas une autre solution, c'est applaudir. Mais, si vous pâté là, ça pâté est fait. Pâté est ni pour échange, pâté est ni pour parler, pâté est ni pour apprendre, pâté est ni pour comprendre, pâté est ni pour écouter. C'est pas ce l'âge de là, ça qu'a fait, alors qu'à les autres, ben, applaudissez. La prochaine formation, c'est une formation trimestrielle. Hein?
Nous allons essayer de nous retrouver dans la Caraïbe. Donc nous aurons des spécialistes. La Guadeloupe dans la Caraïbe.
La Guadeloupe dans la Caraïbe, voilà. Comment nous vivons, nous, en tant que Caribéens, et comment on s'inscrit dans le processus caribéen. Nous sommes en janvier, donc en avril. En avril. Alors encore merci. Bonne fin de journée. Et nous avons un dernier applaudissement à Semounaï Fanouchal.
Notre matinée est terminée. On va finir par l'Eucharistie.
Oui, nous avons terminé par l'Eucharistie. Et il y avait tellement de choses à dire. Nous avons essayé en deux émissions de vous faire vivre le maximum. J'espère que vous avez pris bonne note. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une toute autre émission. Kimberet Pamoli, force pour vous.
Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sophia Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Sainte-Rosemène.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bain-Sabiel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que les. On puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Et aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher vers un but.